Si l'Autriche n'existait pas, il faudrait l'inventer. Palacki, patriote tchèque, en 1848.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
À la fin de l'été 1918, l'Empire d'Autriche-Hongrie est épuisé par 4 années de guerre. L'empereur Charles, qui a succédé au vieux François-Joseph en novembre 1916, a tenté vainement de trouver une paix de compromis avec les Alliés. La volonté de l'Allemagne de n'envisager qu'une paix victorieuse, la sous-estimation des revendications italiennes, le manque de loyauté du comte Tchernin, ministre austro-hongrois des Affaires étrangères, la raideur du président du Conseil français Alexandre Ribot, concourent à faire échouer le projet de Charles. Mais quels sont les projets des Alliés vis-à-vis de l'Empire des Habsbourg? Au début de 1918, ni Paris ni Londres ne souhaitent la fin de l'Empire. Le point 10 des 14 points rendus publics par le président américain Wilson le 8 janvier souhaite de vastes réformes fédérales de l'Empire, mais il n'est pas question de mettre fin à la monarchie des Habsbourg. De plus, le traité de Brest-Litovsk avec la Russie bolchévique, signé le 3 mars 1918, apporte un réel sursis à l'Autriche-Hongrie. Mais une polémique entre Clémenceau et Tchernin amène au grand jour les tractations secrètes de l'empereur Charles l'année précédente. L'annonce est dévastatrice. Le jeune empereur, qui a eu 30 ans en 1917, est obligé de se rendre auprès de Guillaume II d'Allemagne le 12 mai. L'empereur d'Allemagne lui fait signer une déclaration promettant de ne prendre aucun contact avec une puissance étrangère sans lui en référer. C'est une indéniable mise sous tutelle de l'Empire austro-hongrois. Dès lors, celui-ci fait figure d'État vassal de l'Allemagne. Les Alliés changent alors progressivement de position vis-à-vis du sort à réserver à l'Autriche-Hongrie. Le 29 mai, le président Wilson apporte son soutien aux aspirations nationales des Tchécoslovaques et des Yougoslaves à la liberté. Le gouvernement français fait la même déclaration le 29 juin. Le 9 août, c'est le gouvernement britannique qui se rallie à cette déclaration. D'autre part, les Alliés adoptent une position commune en faveur du rétablissement d'une Pologne indépendante qui passe, tout comme la création d'une Tchécoslovaquie, par le démantèlement de l'Autriche-Hongrie. La dégradation de la situation militaire s'accentue à la suite de l'échec de l'offensive austro-hongroise sur le front italien en juin et des offensives allemandes en France qui échouent également. Des signes de dégradation de l'armée impériale et royale voient le jour. Des régiments se débandent, refusent de combattre. D'autre part, le front intérieur montre des signes également de faiblesse. La grippe espagnole tue des dizaines de milliers de personnes dans l'Empire. Les grandes villes comme Vienne, Prague sont très mal ravitaillées. D'autre part, les Hongrois font preuve d'égoïsme en refusant de livrer du blé pour nourrir le reste de l'Empire. Le 6 octobre 1918 est créé un Conseil national des Slovènes, Croates et Serbes. Le début du démantèlement de l'Empire a commencé. Le 15 octobre, l'empereur Charles publie un manifeste qui annonce la transformation de la monarchie en un État fédéral. Annoncer plus tôt cette fédéralisation de l'Autriche-Hongrie aurait pu peut-être arrêter la course à l'abîme, d'autant plus qu'à Budapest, on envisage de plus en plus une Hongrie totalement indépendante. À Prague, le pas est franchi le 28 octobre avec la proclamation de la République de Tchécoslovaquie. Le lendemain, un comité national polonais s'établit à Cracovie et annonce son désir d'une renaissance d'une Pologne indépendante. Le 31 octobre, un gouvernement hongrois se forme sous la direction du comte Károly, qui reconnaît une simple union personnelle avec le roi Charles. Quelques jours plus tard, cette union personnelle sera devenue une république. À Vienne également, la révolution gagne du terrain. Le 4 novembre, le cardinal Piffel, cardinal archevêque de Vienne, célèbre encore une messe solennelle pour la Saint-Charles. Mais nombre de fidélités vacillent au moment où se disloque le vieil édifice habsbourgeois, y compris dans les milieux catholiques et chrétiens sociaux qui se résignent à la République pour éviter une révolution rouge. Le 10 novembre, l'empereur Charles, marqué physiquement, de nombreux témoins expliquent que sa chevelure a blanchi en quelques jours, signe dans le salon chinois du palais de Schönbrunn la déclaration suivante. « D'avance, je reconnais les décisions que l'Autriche allemande prendra sur la forme de l'État dans l'avenir. Le peuple a par ses représentants pris en main le gouvernement. Je renonce à toute participation aux affaires de l'État. » À aucun moment, le mot « abdication » n'est prononcé. Pour la dernière fois, l'hymne impérial s'élève dans la prestigieuse résidence des Habsbourg. Installé au château d'Erkastau, à proximité de Vienne, la famille impériale va, à la demande du gouvernement autrichien, quitter le pays pour la Suisse en mars 1919. Il faut laisser là la parole à Stefan Zweig, qui nous laisse un texte extrêmement fort sur ce départ. Écoutons Zweig. Bien qu'il se fût refusé à une abdication en bonne et due forme, la République lui avait accordé à son départ tous les honneurs, ou plutôt, elle lui avait imposé. Maintenant, cet homme grand et grave se tenait debout à la fenêtre du train et voyait pour la dernière fois les montagnes, les maisons, les gens de son pays. C'était un moment historique que je vivais, et doublement bouleversant pour un homme qui avait été élevé dans la tradition de l'Empire, dont la première chanson qu'il avait apprise à l'école avait été l'hymne impérial, qui, plus tard, au service militaire, avait juré obéissance sur terre, sur mer et dans les airs à cet homme qui, dans ses vêtements civils, regardait devant lui grave et pensif. J'avais vu d'innombrables fois le vieil empereur François-Joseph dans la splendeur depuis longtemps légendaire, aujourd'hui des grandes festivités. Je l'avais vu sur le grand escalier de Schönbrunn, entouré de sa famille et des uniformes étincelants des généraux, quand il recevait l'hommage de 80 000 enfants des écoles de Vienne, lesquels, rangés sur la vaste prairie verte, chantaient de leur voix grêle en un cœur touchant « Le Dieu protège l'empereur » de Hinde. Je l'avais vu au bal de la cour, je l'avais vu en uniforme chamarré aux représentations du théâtre Paré ou encore à Ischl, partant pour la chasse, coiffé du chapeau vert des Styriens. Je l'avais vu à la tête inclinée, se dirigeant pieusement vers l'église Saint-Étienne dans la procession de la fête-Dieu, et par un jour d'hiver, brumeux et humide, j'avais vu le catafalque, alors qu'en pleine guerre, on descendait le vieil homme dans la crypte des Capucins pour qu'il y prenne son dernier repos. L'empereur. Ce mot avait réuni pour nous toute la puissance, toute la richesse. Il avait été le symbole de la pérennité de l'Autriche, et dès l'enfance, on avait appris à prononcer ces syllabes avec vénération. Maintenant, je voyais son successeur, le dernier empereur d'Autriche, quitter le pays en proscrit. la glorieuse lignée des Habsbourg, qui de siècle en siècle s'était transmis le globe et la couronne, finissait à cette minute. Tous ceux qui nous entouraient sentaient l'histoire universelle, dans ce spectacle tragique. Les gendarmes, les policiers, les soldats semblaient embarrassés et se détournaient un peu, honteux, parce qu'ils ne savaient pas s'il leur était encore permis de rendre les honneurs. Les femmes n'osaient pas lever franchement les yeux. Personne ne parlait, de telle sorte qu'on entendit soudain les légers sanglots de la vieille dame en deuil, qui était venue, Dieu sait d'où, pour voir une fois encore son empereur. Finalement, le chef de train donna le signal. Chacun tressaillit instinctivement, la minute irrévocable commençait. La locomotive se mit à tirer avec une forte secousse, comme si elle devait aussi se faire violence. Le train s'éloigna lentement. Les employés le suivirent, des yeux avec respect, puis s'en retournèrent dans leur bureau avec cette espèce d'embarras qu'on observe aux enterrements. En cet instant seulement, la monarchie presque millénaire avait réellement pris fin. Je savais que je rentrais dans une autre Autriche, dans un autre monde.